Polyplaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Polyphile du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. Hélène, tu es là?
Oui, je suis là. Je crois que je suis tout prêt.
Un jour, on s'est croisé à Maison Arc-en-Ciel et tu es rentré comme ça. J'ai un souvenir de ton arrivée assez fluide, comme ça, je sais pas, t'es rentré, t'es venu au bar, t'as pu regarder les flyers et puis on s'est parlé assez vite, hein, je pense. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là quand t'es arrivé à ce premier Café Poly?
Alors donc moi, je savais qu'il y avait ce rendez-vous, j'étais jamais venue et j'étais très curieuse. Je venais moi-même déposer des flyers en me disant c'est une bonne occasion pour les soirées donc l'Arsène auxquelles tu as participé par la suite.
Ouais.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça se perd. J'ai trouvé que l'accueil était très chaleureux, très sympathique, parce que même si moi j'ai plutôt tendance à avoir des facilités à aller vers les gens, c'est toujours très agréable quand on arrive dans un lieu où il y a quelque chose qui est installé, quelque chose qui est mis en place, qu'on vienne nous accueillir là-dedans, qu'on nous prenne un peu par la main, que les gens se présentent entre eux. Et voilà. Donc j'ai passé une très chouette soirée au Café Poly. Il y avait des gens très mixtes, c'était très varié, c'était très humble, très tolérant, très ouvert, très détendu. Moi, j'ai vraiment, une très très belle ambiance, quoi.
Et justement, comme tu l'as dit, tu venais avec des flyers Larsen. Donc moi, évidemment, je sais depuis ce que c'est parce que j'ai participé à ces deux événements. Et moi, on peut expliquer plus tard, en fait, sans doute pourquoi c'est lié avec le polyamour et quelle passerelle on peut tenter. Parce que donc, il y a eu une première édition il y a un an et demi qui était assez différente en fin de compte que la seconde. Et donc, peut-être, si toi-même, tu vois une évolution, bon, en quelques mots, expliquer le concept aussi, puis peut-être l'évolution que tu imaginerais.
D'accord. Donc oui, effectivement, la première édition avait lieu le 25 mars, donc il y a un peu moins d'un an. L'idée, c'est le Larsen, ça part d'une impulsion de créer des rencontres. Des rencontres autour d'œuvres, autour d'artistes, autour d'auteurs, qui réfléchissent notamment à la question de normes, d'identité, de structure. Voilà, donc l'idée, c'est que le Larsen... Pour moi, c'est un élément un peu parasite qu'on peut rendre harmonieux, en fait. Et donc, la première édition, donc on avait invité Camille Dusselier, qui est une jeune réalisatrice, qui j'adore son travail, et en fait, qui travaille essentiellement sur des portraits tabous de la société. Donc, des femmes qui se considèrent sorcières, des femmes haltérophiles, donc des femmes fortes. Donc voilà, on a proposé tous ces courts-métrages à la première édition, c'était suivi donc de performances.
Une vieille dame qui parlait du plaisir aussi, c'était assez étonnant.
Oui, alors ça c'est un des portraits que j'apprécie vraiment le plus dans Sorcières mes sœurs, qui est son dernier film, qui tourne encore un peu aujourd'hui. D'une vieille dame qui parle des notions de plaisir chez la femme, et de comment elle, à travers... son vécu, elle a vécu, enfin, elle a perçu, en fait, un peu les interdits du plaisir des femmes, et elle s'exprime là-dessus, et ce portrait est vraiment tout à fait fascinant. Voilà, la seconde édition, on t'a accueilli, toi, avec une radio, donc sur les amours pluriels, donc, qui pour moi est tout à fait l'arsenic dans l'esprit. L'idée, c'est proposer à un moment... une autre approche, en fait, du couple. Le Larsen, forcément, par le fait qu'il s'intéresse à la notion d'identité, genrée, multiple, a une certaine appétence, j'ai envie de dire, LGBTQI, donc pour lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe. Mais c'est évident pour moi que le Larsen est un espace... pas du tout restreint et certainement pas exclusif, excluant en fait.
Oui, c'est ça.
Aussi bien, donc, moi, ce qui me plaît aussi, c'est pouvoir discuter tout ça avec des personnes qui partagent pas forcément et ces pratiques et ces modes de vie-là, en fait. L'idée, c'est qu'on puisse très clairement en parler, lever le tabou sur plein de choses et permettre, ainsi que les gens qui en sortent, se sentent encore mieux peut-être dans leur identité qu'en y rentrant, parce qu'on est, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être propres à chacun, chacune, et qu'il faut vraiment embrasser, quoi, j'ai envie de dire, que ce soit dans notre lien avec autrui ou que ce soit dans notre lien purement personnel à notre identité, quoi.
Et ici, le grand défi, quand même, de la deuxième édition, c'était de présenter un film au-delà des genres, hein, Psychiatre TV, là, dans le genre aussi les grands groupes Cabaret Voltaire, enfin, toute cette époque-là que j'ai un peu connue aussi, qui avait un message fort, hein, sur l'identité. Et donc, tu t'es battu pour avoir ce film.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des retours? Comment ça s'est passé? Enfin, moi, j'ai senti le public assez captivé ce jour-là.
C'était un film qui était une très jolie claque cinématographique. Donc je l'avais découvert au Réel à Paris l'année dernière, donc il y a un festival de films documentaires. C'est un film qui s'appelle The Ballad of Genesis and Lady J, de Marie Lozier, qui est un film extrêmement plastique. Donc déjà dans sa forme, voilà, dans le sens décloisonner, déstructurer, réfléchir la forme, la norme, on est en plein dedans. Alors en plus... Donc on est essentiellement sur un portrait d'un couple qui défie toute norme, aussi bien dans l'amour qu'ils ont partagé, aussi bien dans le corps et ce qu'ils ont été en faire. Enfin, j'ai pas envie de dire trop pour ceux qui l'auraient pas vu, faut se laisser happer par ce film. Et donc le troisième niveau de déconstruction, j'ai envie de dire, c'est que ce film, qui est un film donc à nouveau vraiment fascinant, connaît une histoire, une très belle histoire, mais une histoire de film qui est essentiellement vue en festival, qui est essentiellement vue dans des salles ritualisées, des festivals de films, etc. Et à un moment, ça m'intéressait aussi de sortir ce film de ce cheminement classique, en fait. Parce que aussi, il y a plein de personnes qui sont extrêmement intéressées par ces thématiques, qui ne vont pas dans les festivals de films où on trouve essentiellement ou des cinéphiles ou des gens dont c'est leur métier, et puis d'autres personnes dont c'est le détour une fois de temps en temps. Mais l'idée, c'est que là, on était dans un lieu de vie collective, donc une sorte de squat sur XL. Et moi, ça m'intéressait énormément. Ce film qui est en ce moment à l'affiche en France, qui est en ce moment en train de courir dans tous les festivals du monde, qu'on le sorte du rituel, qu'on le passe comme ça dans un lieu où effectivement on est sur des banquettes, certaines personnes étaient debout et je suis allée m'excuser auprès d'eux à la fin du film. On dit mais non, mais c'était très bien en fait, j'ai regardé le film debout. Enfin, et on change complètement les habitudes à nouveau.
Et puis à 2 mètres de là, il y avait aussi une bonne soupe qui mijotait, hein, avec le bar, un merveilleux bar en bois comme ça.
Ouais, l'idée c'est ça, hein, on commence généralement assez tôt, c'est une soirée, la dernière qui a duré plus de 8 heures, on a à manger, là c'était, en plus on avait fait vraiment un grand plat comme ça, bien familial, on fait un cocktail aussi, qu'on réfléchit aussi la recette du cocktail, toujours dans ses ingrédients de base du Larsen. Les expositions, il y avait une fanzinothèque, donc essentiellement sur les questions de genre, de féminisme, de sexualité. L'expo aussi en lumière noire dans les toilettes, où il y avait une boucle. Certaines personnes me disaient, je regardais l'expo, puis d'un coup j'entendais une voix, et je m'étonnais complètement, et donc c'était ta boucle qui passait là-bas. On essaie comme ça de penser une sorte de chose complète, où tout le monde, enfin voilà, peut trouver à manger, à boire, à regarder, à lire, à entendre.
Et toi, tu étais sur scène, Hélène. Ah oui, mais attends, c'est un grand moment. Tous tes amis étaient là.
Oui.
Tu as lâché le flow, comme on dit. Il y avait du slam, il y avait quelque chose de puissant, de très intime. Oui. Enfin, c'est quelque chose qui. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a un an et demi, j'avais été voir sur YouTube. Une prestation, enfin, voilà, tu lâchais un texte et moi j'écris aussi un peu de poésie. Enfin, voilà, ça me touchait beaucoup. 2-3 mots là-dessus, quand même, ça me plaît. Comment tu as vécu ça? Parce que voilà, c'était peut-être pas non plus les deux seules fois où t'en as fait, mais en gros, t'étais face à ton public aussi, avec des amis. Est-ce que c'est si simple, quoi?
Tout à fait. Donc, donc j'étais sur scène, sous le nom de cinéma, pour le coup. Donc ce sont des textes, c'est tout à fait juste quand tu dis quelque chose de très intime, c'est un projet qui est resté intime pendant très longtemps, comme ça dans l'espace de cette chambre où tu es là maintenant. Et puis effectivement, quand le Larsen a commencé à jaillir, on s'est dit ensemble, donc le groupe donc à l'époque Paul Margot et moi, que c'était l'espace pour peut-être rendre visible cinéma. Et donc sont forcément des textes qui traitent aussi beaucoup de ça. Donc ce premier texte que tu avais vu en ligne, c'est Multiples Facettes.
Voilà.
Donc on a réitéré, c'est pas forcément simple. Il y a plein de moments où je préférerais être juste dans l'organisation. Parce qu'autant j'ai l'impression que je m'occupe à peu près bien des artistes, mais de moi-même à ce moment-là. C'est un peu, voilà, c'est une autre casquette, c'est quelque chose de tellement intime.
C'est oser se mettre en scène. Hein.
Ouais. Hein. Ouais, oui, c'est moi je suis... À la base, je suis pas quelqu'un qui aime trop ça, être sous la lumière, mais en même temps, voilà, ça fait longtemps que j'écris, que j'ai une partie de moi qui aspire à rendre aussi ces textes publics de la même manière, où en fait, à un moment, monter de la scène, c'était assumer ça aussi. C'était, je pense qu'il y a une grande notion, le fait d'assumer, de s'assumer, de rendre, de dire haut et clair ces textes-là devant plein de gens, devant des gens. Que je côtoie, des amis, des connaissances professionnelles aussi, forcément. Du coup, c'est un grand moment. C'est pas toujours simple de tout donner à ce moment-là. Mais je me suis dit, quitte à allier un peu les deux, je pense que ça a du sens, le Larsen, cinéma, ça vient un peu de la même source.
Et est-ce que dans le groupe qui était invité là, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup, une belle jeunesse et des gens plus âgés, est-ce que tu as senti l'envie de parler, le public parlait de cette thématique intergenre ou fluide, enfin, est-ce qu'il y avait tout ça aussi? Est-ce que ça a questionné, quoi, ce que toi tu as proposé, hein, ce que tu as mis sur la table, quoi?
Ce qui m'intéresse énormément, c'est justement le fait de conjuguer des artistes et des œuvres. Il y a différents publics comme ça qui viennent et qui se mélangent. Il y a des gens qui étaient venus parce qu'ils savaient qu'un tel faisait du slam, par exemple, et puis pas forcément sur des questions de genre, d'identité, de sexualité, puis qui finalement se retrouvaient confrontés à ces autres œuvres, puis étaient extrêmement étonnés, curieux. J'ai eu beaucoup de beaux retours, en fait, de gens qui se font surprendre, en fait. Et ce que je trouve par-dessus tout magnifique jusqu'à maintenant au Larsen, mais ça c'est aussi parce qu'on a un peu notre public, mais on est tout jeune, donc on n'a pas un public... confirmé, c'est que ça crée vraiment une foule très mixte et c'est ce qu'on recherche. Et qu'à partir de là, les gens ne viennent pas juste pour un programme, on essaie d'inviter vraiment le public à venir pour profiter de la totalité du programme. Et donc beaucoup de gens étaient venus pour le film, d'autres gens n'avaient jamais entendu parler du film et se sont retrouvés embarqués comme ça dans cette histoire-là. Et oui, ça crée. Moi, j'ai trouvé que ça créait quand même une jolie effervescence, une jolie stimulation de ça. Et puis d'un coup, on prend un nouveau détour et on se dit ah oui. Enfin, il y avait le film de Jeunet, Un chant d'amour qui passait dans un coin. Enfin, donc voilà, il y a des petites fenêtres comme ça un peu partout. Et puis on se rend compte qu'il y a tellement de personnages représentés aussi bien dans la foule que dans les œuvres présentées. Variés et multiples, que j'ai l'impression que oui, ça crée... Moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est quand les gens se sont sentis bien et partent avec un sourire en disant « j'étais vraiment très bien. J'ai pas eu de mal à trouver ma place. J'ai pas eu... je me suis pas senti mal à l'aise. En fait, je me suis pas senti être mal à l'aise. C'est un moment mal foutu dans son corps. C'est pas trop savoir où se mettre. » Et l'idée, c'est que... Pour nous, Larsen, c'est une réussite quand les gens ont trouvé ce confort, en fait, très simplement, alors qu'ils ne sont jamais venus ici. Mmh. Et je pense que c'est énormément... c'est quelque chose qui se propage par les œuvres. Aussi bien quand on entend dans tes interviews ces femmes s'exprimer sur leur mode de vie, quand on voit dans Genesis ce couple qui, a priori, c'est de l'amour qu'ils ressentent, mais c'est très, très étonnant comme formule. Quand on voit après les textes... voilà, moi je parle aussi d'amour vachement déconstruit, j'ai un style qui est imprégné de musique rap et de slam, et pourtant effectivement je parle pas de thèmes qui sont le plus souvent traités là-dedans, je parle beaucoup de sexualité entre femmes, mais aussi de sexualité mixte et multiple. Et puis derrière ça, toujours j'aime aussi quand on voit que ce sont des groupes comme ça qui aussi sont un peu décalés dans leur sensualité ou dans leurs instruments. Voilà, c'est un grand package. Et j'ai l'impression que ça a un impact sur la foule, en tout cas. Enfin, sur beaucoup de gens qui, après, derrière, reviennent nous voir et l'expriment peut-être pas forcément avec beaucoup de mots, mais disent « je me suis sentie trop bien, j'ai hâte que ça se reproduise, en fait ». Je me suis sentie trop bien, alors j'étais entourée d'inconnus. Il y avait certaines personnes que je connaissais, mais j'étais entourée quand même d'inconnus.
Et j'ai entendu plusieurs fois l'idée de déconstruire, hein. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que oser déconstruire, c'est peut-être parce qu'on a été trop construit par un système, par une éducation, par un environnement? Est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être un facteur commun entre les gens qui étaient là? Donc ça, c'est une première petite question, avec une deuxième derrière, se dire, OK, si dans l'idée où on est d'accord qu'on peut arriver à déconstruire, est-ce que c'est seulement après qu'on peut du coup construire? Est-ce qu'on a besoin de se fédérer avec d'autres pour ça? Enfin voilà, c'est une question un petit peu de cet ordre-là. Est-ce que tu penses que des endroits comme Larsen qui questionnent, ou est-ce que c'est pas un peu flippant aussi de trop déconstruire? Ou tu penses que c'est vraiment nécessaire d'aller très loin, par exemple, puisque tu abordes quand même des genres, enfin des déconstructions de genre qui sont assez étonnantes?
Alors, je pense que je vais répondre un peu à tout dans un même temps. Attention, je pars pas du point de départ qu'il faille tout déconstruire, mais je pars très clairement d'un point de départ où il faut se méfier de tout ce qui est construit. Et je partirai d'un point de départ qui m'est propre. Et de nouveau, je ne pense pas non plus que tout le public du Larsen vienne ici parce que eux sont dans un décalage identitaire ou pas. Enfin, l'idée, c'est de prôner une fluidité de l'être, que les gens soient tout à fait sereins et fluides avec leur genre, leur pratique. Enfin voilà, moi qui est un mec qui se sent très bien mec, qui soit hétérosexuel et exclusif dans ses relations amoureuses et qui vienne au Larsen, mais alors jamais, jamais de la vie, je serais contre ça. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, ça fait partie, à partir du moment où cette personne se sent fluide dans ce qu'il est, il est le bienvenu, et enfin, bien sûr. Enfin, je pense que, donc là, c'est très personnel, à un moment, je me suis méfiée très jeune, parce que ça me faisait peut-être trop souffrir, de la construction du genre, donc de ce que c'est qu'un garçon, de ce que c'est qu'une fille. Et ça m'a fait beaucoup trop souffrir jusqu'au moment où je me dis, mais en fait, c'est une construction qu'il faut envoyer en l'air un peu, qu'il y ait plein de gens comme moi qui se sentent vachement plus à l'aise parce qu'ils se sentent pas, ils se retrouvent pas dans le modèle de genre de base qu'on leur impose. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai décidé de déconstruire en tout cas cette notion-là, et de me tourner vers les œuvres et les penseurs et les actions des gens qui participent à cette déconstruction, de ce fait, ça a entraîné aussi une méfiance des constructions de couple, voilà, de normes sociales. Bon, je suis très très axée sur les questions de pratiques genrées, identitaires et sexuelles. Et voilà, à partir de là, c'est une méfiance, c'est un questionnement. Enfin, toutes les œuvres qui sont proposées au Larsen, c'est une proposition, c'est pas une induction, c'est pas. On ne célèbre pas le fait qu'on aille dans un extrême de la déconstruction. À un moment, il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes qui vivent autrement leur couple, leur genre, leur sexualité. Qu'est-ce que ça fait de voir ça à l'écran, de voir ça en texte, de voir ça à la radio, et est-ce que nous, enfin, comment on se place par rapport à ça, et est-ce que nous, on trouverait pas ailleurs des espaces de liberté qu'on se serait peut-être pas permis parce que y a une construction comme ça qui fait un peu barrage. Voilà, mais je suis pas dans un truc où faut tout faire exploser. Je pense qu'il faut juste être très méfiant et à un moment, à chaque fois, regarder de près quelle instance domine une pratique, une croyance, une appétence, enfin voilà. À réfléchir de près, s'écouter soi-même avant tout, s'écouter. Et puis de voir si on est d'accord ou si à un moment il y avait une construction ou quelque chose d'un peu plus grand qui venait un peu réguler. C'est ça aussi, c'est énormément de régulation. C'est partir de là, c'est être à l'écoute, se méfier, considérer et puis voir un peu qu'est-ce que nous ça nous fait si parfois on se détache un peu d'un poids qui est celui de où. Oh, j'ai jamais été assez fille, ou je suis pas assez comme ça, ou pour un garçon de pas se trouver assez masculin ou viril, ou avoir une pratique sexuelle qui a priori n'est pas virile. maman, il y a peut-être des petits trucs qu'il faut un peu lâcher prise. Mais puis je pense que si on peut le penser ensemble, si on peut. J'aimerais beaucoup dans le Larsen, il y a encore plus d'espace de discussion, éventuellement de workshop sur plein de choses, sur des questions de corps, de pratique, où on peut vraiment réfléchir ça ensemble. Parce que, comme les gens qui viennent au Café Poli, souvent, bon, y a ceux qui ont leur expérience, qui connaissent très bien, puis y a ceux qui sont un peu, qui balbutient un peu comme ça, puis qui viennent curieux, qui ont envie de partager, puis qu'est-ce que ça fait du bien une fois qu'on a partagé derrière, de repartir là un peu plus léger, puis on a rencontré d'autres gens, pour qui sont aussi des points importants. Et voilà, l'idée c'est d'ensemble créer ces rendez-vous. Je crois que c'est vraiment très proche de là ce qui est fait au niveau des cafés polis. Hein. C'est un peu cette volonté-là aussi, c'est de partager un moment, un repas, un bon moment, quelques mots, quelques préoccupations, quelques expériences. Et puis repartir de là en se sentant peut-être plus. Encore mieux, quoi. Encore plus à l'aise, encore plus. Peut-être plus serein parce qu'on a pu partager avec des gens ce qu'on ne peut pas toujours faire au travail, à la maison. Ou, voilà.
Et par rapport justement aux amours pluriels, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des passerelles vers la déconstruction des genres? Puisque nous, on est aussi peut-être dans le groupe des amours pluriels ici à Bruxelles et en Belgique, dans une certaine maturité, même si on est bien certain qu'on n'a rien inventé et que oser être en dehors de l'exclusivité amoureuse, ça s'est passé à d'autres époques, à d'autres siècles, un peu partout. Mais disons qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu réactualisé, remis en contexte de notre époque. Moi, je sens dans le groupe aussi qui a tout doucement des maturations. Et j'ai l'impression que dans ce que toi, tu proposais aussi dans la déconstruction des genres, pourquoi est-ce que c'était pertinent d'amener peut-être le témoignage de Patricia et Christine, qui était intéressant parce qu'ils étaient sur l'homosexualité féminine, mais également parce qu'elles étaient en ouverture non exclusive entre elles. Et est-ce que toi, tu as l'impression que c'est pertinent dans ton réseau et peut-être dans ta vie aussi, ou quel est ton point de vue là-dessus ?
Alors moi, ça me paraît évident qu'il y a des ponts et des liens. Disons qu'il y a encore d'autres données qui entrent en compte dans le fait des relations bisexuelles, par exemple. Déjà de base, moi, je me dis toujours, pour essayer de tout englober, je me dis toujours, je suis polyamoureuse pansexuelle, alors vraiment le tout, parce que ça m'embête de cloisonner, de réduire, etc. L'idée déjà, à un moment, c'est d'être à l'écoute de soi, de ses désirs, des désirs de l'autre. Qu'est-ce que c'est que de se sentir libre dans ce qu'on est aussi, dans son identité et dans ses pratiques. Et à un moment, se rendre compte, enfin, je sais pas, moi, quand je me suis rendu compte que quand j'avais une histoire avec un homme et quand j'avais une histoire avec une femme, c'était pas la même chose. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas la même chose, mais je ressens, il y a un lien qui est évident, qui est là. Et pourquoi est-ce que, par exemple, la personne avec qui là je partage une histoire pourrait pas aussi vivre comme ça des liens différents ? Donc là, on a clairement la différence de sexe qui fait, bah, moi, je ne serai pas un homme, donc je vis une histoire avec une femme qui à côté de ça aussi, il y a clairement des histoires avec des hommes, je ne vais pas essayer de me substituer à l'homme, enfin, ça me paraît assez difficile. Et donc, très tôt, j'ai dit, bah, écoute, moi, à aucun moment, je prétendrai me substituer à l'homme avec qui tu as envie d'être là-bas, je t'en prie, enfin, ça me paraît évident que tu puisses vivre ce que tu as à vivre dans tes autres liens. Moi, ça a été un peu couplé, en fait, comme ça. Ça a été,
Comme si la bisexualité était déjà une première évidence pour aller vers les amours pluriels, c'est ça ?
Oui. Moi, ça m'a. Je dis pas que toutes les personnes bisexuelles sont polyamoureux. Hein. Mais moi, déjà, ça m'a mis une petite puce à l'oreille, en fait, en me disant, mais tout ce qu'on essaie de m'apprendre, c'est faux. Enfin, je ne me retrouve pas du tout dans le couple hétérosexuel de base. Donc, qu'il soit à partir du moment où je casse ce schéma dans lequel je ne me trouve pas, qu'il y a une relation hétérosexuelle qui, de surcroît, m'est représentée le plus souvent exclusive, ben, en fait, je suis à un pas de casser aussi l'exclusivité, parce que je la remets en question aussi bien que cette norme hétérosexuelle, en fait. Donc c'est une double norme qu'à un moment, je questionne. Il y a plein d'homosexuels qui sont, enfin la plupart, je pense, des homosexuels peuvent pratiquer une exclusivité. Mais pour ma part, ça a été différent. C'était un moment, il y a quelque chose qui cloche, et c'est pas seulement la question du sexe, c'est aussi la formule qu'on propose. J'ai un gros problème avec ces notions de possession, voilà. Et c'est peut-être, je sais pas, vraiment, je parle pour moi, c'est peut-être plus simple, quelque part, pour quelqu'un qui se révèle ou homosexuel ou bisexuel, qui a déjà, comme ça, envoyé péter tout un pan d'une norme, que de se dire, bah, cette autre norme-là, elle me convient pas non plus. C'est là où moi, je vois un pas évident, en tout cas dans mon histoire, quoi. Les liens sont très indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de... Comme je ne vais pas comparer, et je ne demanderai jamais à l'autre de comparer une histoire avec un homme et avec une femme, comment est-ce que je pourrais comparer des amours différents, des liens qui se sont construits complètement indépendamment, des rencontres qui ont eu lieu, des histoires qui ont 10 ans, d'autres qui sont toutes naissantes. Enfin, voilà. Après, je sais que vous êtes assez... qu'il y a de plus en plus de mixité aussi au Café Poli, ici à Bruxelles. Et ça, je trouve ça très chouette parce que ça soulève vraiment encore d'autres questionnements. Mais ouais, je pense que c'est une question de double norme qui va avec ce couple hétéro-exclusif, quoi.
Est-ce que tu as trouvé dans tes relations amour pluriel comme ça des moments de plénitude, comme ça, d'une espèce d'évidence et de grand bonheur à être dans cette ouverture. Est-ce que tu as déjà vécu des moments où tu étais en relation avec plus d'une personne et où ça te paraissait tout à fait évident que c'était un modèle d'avenir et qui, en tout cas, amenait sans doute autre chose aussi, quoi.
Ouais, alors c'est sûr, je dirais pas toujours, tout le temps, enfin les déboires, la vie amoureuse, puis je suis assez jeune, j'ai beaucoup bougé jusqu'à maintenant, donc mais je pense que c'est en lien aussi, parce que quand on se déplace géographiquement, qu'est-ce qu'on fait d'un amour en cours? Est-ce qu'on continue à le nourrir, à le partager, ou est-ce qu'on met une rupture? Mais il y a eu vraiment des moments où moi j'ai trouvé mon équilibre, et il me semble que mes partenaires aussi, qui n'étaient pas forcément dans une pratique de l'amour pluriel, mais qui le vivaient bien, en tout cas à certains moments dans cette configuration.
Oui, ça c'est important que pour eux c'était confortable aussi.
Ah oui, moi c'est évident que j'aurais pas pu être bien si de l'autre côté. De toute façon, moi je prends vraiment une transparence complète. Ça paraît pas possible en dehors de ça, de toute façon. Et puis voilà, si à un moment il y a un lien aussi fort, qui est celui vraiment d'une estime et d'un respect et de sentiments, enfin, ça me paraît évident qu'on puisse pas avoir cette part d'ombre et de jouer. Bien sûr, hein, adolescente, plus jeune, quand j'étais un peu sans trop savoir ce qui pouvait m'arriver, et de ressentir deux sentiments amoureux, et me dire, mais mince, je fais quoi avec ça? Et puis voilà, t'as 18-19 ans, et puis ça paraît pour des adolescentes comme ça, presque inenvisageable, c'est tout de suite les mots trahison, tromperie, enfin voilà. Mais bon, il a fallu un peu faire son chemin et mûrir, et puis mettre un peu... plus de lumière sur comment est-ce que c'était envisageable de vivre des amours pluriels là où tout le monde s'y retrouverait, là où tout le monde se sentirait bien, pas blessé, pas restreint, pas trahi, et puis que la parole et le corps rejoignent vraiment ça, parce que parfois c'est pas toujours le cas. On peut se retrouver face à des personnes qui disent mais non, ça me dérange pas, puis en fait on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui coince, quoi. Mais je dirais que j'ai eu deux, trois périodes, en fait, où c'était évident que c'était tout à fait possible, tout à fait serein et tout à fait viable sur un long terme. Après, ce qui est très agréable pour moi, par exemple, au Café Poli, c'est de rencontrer des gens de génération au-dessus de moi, qui pratiquent ça depuis beaucoup plus longtemps, qui ont trouvé d'autres moyens d'équilibrer. Des sortes d'aménagements, parce que pour moi, chaque relation, c'est un aménagement, en fait, qui permettait la durabilité ou la viabilité de ça, quoi. Et ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup aussi, en parler vraiment avec des gens qui ont peut-être plus de bagages et qui seront un peu conseillés et rassurés, parce que c'est vrai qu'il y a plein de moments où on se dit, est-ce que je peux vraiment vivre ma vie comme ça? Je le sens comme ça, mais est-ce que c'est possible? Sur le long terme, on fait comment? Parce que voilà, j'ai pas encore 25 ans. que voilà, moi j'aime beaucoup rencontrer des couples qui ont une vie commune depuis 10-15 ans et qui sont qui vivent très bien leurs amours pluriels et où ça n'entaille rien à leur bonheur commun.
Oui, donc tu avais besoin de voir des gens qui étaient peut-être 10-15 ans plus loin et de sentir qu'il y avait une possibilité peut-être de faire perdurer un peu le modèle, puisque c'est vrai que quand on sort des sentiers battus, ben, on a parfois des difficultés à mettre en place, évidemment, puisque toutes les références extérieures, la société n'arrête pas de te rappeler que voilà, le chemin quand même le plus confortable, c'est acheter la maison, partir en vacances, avoir un travail fixe, une personne de référence, avoir des enfants, un petit chien, enfin voilà, on est quand même dans ce modèle.
Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a, il y a plein de problématiques qui sont communes et de l'autre côté, beaucoup de choses différentes aussi selon voilà, cette histoire. Moi, je me sens encore très très loin de toute façon du risque du chien et de la voiture, donc ça va. Mais en même temps, je me pose aussi des questions de comme ça. Il y a aussi beaucoup, je pense, d'amalgame en fait de personnes qui perçoivent pas peut-être une authenticité des liens.
Oui.
Une authenticité de qui ne croit pas en fait que ça puisse être si transparent et si authentique. C'est difficile en même temps. Enfin, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais tu comprends que c'est difficile à comprendre pour nous.
Oui.
Parce que enfin, quand on parle, ça a l'air évident, mais c'est quand même extrêmement difficile à comprendre. Du coup, ils partent et tout après, et puis. Tu te retrouves face à ta table en train de te dire, bon, je me mens pas quand même. C'est, enfin, forcément, on se remet en question, enfin, c'est normal, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi, jeune, c'est aussi un moment où, bon, on est dans une période aussi avec tous ces... Enfin, voilà, la consommation, la surconsommation du sexe et de l'autre aussi, enfin, je veux dire. Et la consommation de l'autre aussi, qui est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement loin de moi. Je supporte pas être dans l'idée de consommer quelqu'un et en même temps... Parfois, c'est très vite jugé, quoi. Les amours pluriels, c'est ça, c'est une surconsommation un peu. Et donc, c'est pourtant un terme qui, moi, me débecte au plus haut point. Et puis, souvent, l'amalgame peut être fait, en fait. Donc, l'idée, c'est aussi de proposer ça au Larsen pour qu'enfin, on puisse discuter clairement, quitte à ce que quelqu'un vienne avec son avis un peu radical en disant, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est une surconsommation, que c'est voilà. Comment est-ce que derrière, on peut peut-être discuter pour partager un vécu qui. Je ne surconsomme pas et, ça, et en plus ça sous-entend une sorte de lien linéaire où on n'est pas deux ou plusieurs à partager vraiment un lien qui va dans les deux sens et voilà.
Est-ce que tu as un souvenir précis d'un moment où tu as accepté vraiment, tu te dis ok mais je ne serai jamais comme les autres, ça coûte quoi d'assumer, d'être différent aussi à ce niveau-là?
Alors pour ma part, je dirais que ce serait en plusieurs étapes, mais des étapes qui se ressemblent. Ouais. C'est-à-dire, au départ, j'avais très très peur de passer à l'acte avec une femme, par peur que ce soit irréversible. Parce que la société me disait, ça serait pas très bien que tu sois homosexuel si t'es homosexuel.
Donc... Par rapport à tes parents, peut-être ou...
Peut-être, c'est vrai que mon père n'était pas contre quelques propos homophobes une fois de temps en temps, donc forcément ça sur une éducation ça pèse, et puis même sur je venais d'une petite ville, même à un moment de se dire s'il n'y a pas machine arrière, je suis un peu dans la merde jusqu'à la fin de ma vie à devoir assumer comme ça. J'ai eu peur, à ce moment-là j'ai eu peur, puis j'ai passé. Puis là j'ai dit waouh, enfin voilà, et puis aucune peur de l'irréversibilité, enfin je. Au début, j'ai eu comme ça une période où je me suis assumée lesbienne pendant un temps. Puis après, j'ai dit, mais en fait, là, je me suis retrouvée complètement perdue parce que j'ai eu un petit coup de crush pour un travesti homme. Et là, je me suis dit, mais t'es vraiment pas normale, ma pauvre fille. Tu arrives à t'assumer homosexuelle et là, tu te retrouves à être attirée par un homme qui aime s'habiller en femme. Et là, j'ai dit, mais en fait, faut arrêter de cloisonner. En fait, faut écouter ses désirs.
C'était la personne d'abord.
C'est la personne, quoi. Il faut que j'arrête de me foutre mal parce qu'il faut que je m'identifie. Ça a été un grand déclic aussi. Hein. Foucault qui explique le problème de l'identification. Le fait que c'est pas pour nous qu'on doit s'identifier, mais c'est pour l'autre. Il faut qu'on puisse être identifiable et identifié. Parce que nous, après tout, si à un moment, on est à l'écoute de là où on veut aller, on se dit, ça m'a emmené ici, c'est tout. Si on... Mais l'autre a besoin, quoi. Combien de fois on m'a dit, mais attends, t'es pas lesbienne, toi? parce qu'on me voyait avec un homme. Et j'en ai marre, moi, de devoir... Et je crois qu'il y a eu ce premier basculement qui a été extrêmement important, en fait, à un moment, de dire, mais non, en fait, j'en vois tout voler. J'ai pas envie de devoir justifier de mes pratiques et de mon identité auprès des gens. Après, derrière, je pense qu'il y a eu multiples facettes qui a été un moment un peu où j'ai... Je dis, voilà, en fait, il faut embrasser toutes ces facettes internes et intérieures. Et puis, il n'y a que comme ça, il n'y a que en embrassant ça qu'on ira vers une entité. Voilà, j'ai refusé de m'engager dans une relation trop... J'ai refusé de m'engager vraiment sous la forme du couple pendant des années en disant non, non, je prends le temps de réfléchir à tout ça, en fait. Je prends le temps de réfléchir à tout ça. Je crois qu'il y a un truc qui cloche et il va me falloir du temps pour pouvoir trouver en fait mon équilibre et mes besoins et m'écouter vraiment. Et puis voilà, et je crois que il y a un an et demi, je me suis trouvée vraiment un peu. J'avais un peu identifié comme ça qui j'étais vraiment et je me sentais un peu entière pour la première fois vraiment. Et j'acceptais en fait toutes mes différences aussi en les considérant comme une force aussi.
Ouais, c'est ça.
Sans les imposer à qui que ce soit, mais en les considérant comme une force, on est un carrefour comme ça, on est un carrefour de multiples, et puis ça fait de notre propre individualité, et c'est quelque chose de très beau quand c'est vraiment apprécié, accepté, embrassé. J'aime beaucoup ça, cette idée d'embrasser soi, se s'embrasser soi-même. Et voilà, c'était un gros déclic en tout cas. Et à partir de là, oui, des amours pluriels, en toute honnêteté, en toute franchise, parce qu'à un moment, on assume et qu'on n'a pas l'impression de faire faire un crime. C'est comme le crime de ne pas être assez fille ou comme le crime d'avoir des pratiques différentes que la plupart des crimes, ou enfin, de la plupart des... Le crime d'avoir des pratiques différentes que celles qui sont plus représentées. Mais à un moment, c'est ça. C'est en fait, non, je ne suis pas un crime. En fait, c'est tout à fait possible que ce soit quelque chose même de très beau, qui me va très bien et qui me rend heureuse, qui rend heureux aussi d'autres gens qui, maintenant, je rencontre. Parce que si c'est ça, c'est quand on est prêt à faire ce genre de rencontres, on les rencontre plus facilement aussi. Et voilà. Je ne sais pas si ça
répond. Et alors, en lien avec l'écriture, parce que ça, c'est dans les interviews que j'ai pu mener, je sens aussi parfois, chez beaucoup de personnes... interviewer ce lien avec l'écriture, enfin, c'est pas systématique, mais malgré tout important. Est-ce que tu sens qu'il y a eu, comme aussi, à un moment donné, donc tu parles de ce moment charnière d'acceptation, est-ce qu'il y a eu un surplus d'énergie littéraire, ou voilà, une façon d'écrire qui a mûri aussi à ce moment-là, dans ton écriture poétique, ou du slam ou autre?
Je crois que je saurais pas te répondre, vraiment. Parce qu'en même temps, c'était assez facile, à partir du moment où ces textes étaient que pour moi, ouais, pendant une longue période, de moi lâcher complètement une diversité, une déconstruction. J'aime beaucoup...
T'as toujours beaucoup écrit, quoi.
Ce que j'aime beaucoup dans slam rap, c'est le fait de jongler autant sur les mots, sur les sonorités. C'est encore une nouvelle forme de déconstruction du texte. Pour moi, les rappeurs sont vraiment les poètes d'aujourd'hui. Après, voilà, c'est très vaste, hein, mais... C'est un moment, c'est jouer avec les mots, déconstruire le sens, recréer de nouveaux sens, monter des mots comme ça, et puis pouvoir faire agir l'oralité derrière aussi, le rythme qui crée quelque chose à l'image de ce qu'on a là un peu à l'intérieur, quoi. J'aime beaucoup construire et déconstruire à part l'écriture. Après, je peux pas te dire si à un moment ça a fait un déclic. Vu pour moi, dans mon intimité, j'avais quelque chose d'assez fluide.
C'est ça.
Mais une fois que j'ai pu le sortir, d'assumer ça, c'était plus important encore, quoi.
Et là, j'aimerais bien aussi revenir peut-être sur le terrain de l'éducation. Donc, tu as fait référence un peu à tes parents. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, tu penses nécessaire de faire un coming out ou pas dans l'idée des amours pluriels, ou simplement d'être attiré aussi par... au-delà des genres, justement, dans des ouvertures. Est-ce que tu penses que ce sera un confort dans ta vie, ou que ce n'est pas nécessaire, ou que dans le fond, à long terme, ça se fera doucement, enfin, voilà.
Écoute, tu me poses une question un peu piège. c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, ouais, en ce moment, ces derniers temps, j'ai envie de dire. Parce que pour le coup, il me semble que mes parents me considèrent aujourd'hui homosexuel. Et en fait...
Ils ont deviné un peu, c'est ça.
Ils ont été forcés de deviner. Mais en même temps, on n'en a jamais parlé. Donc, comment il se positionne là-dessus? Parce que je sentais qu'il y avait un frein, un problème. Bon, il faut savoir aussi que je suis fille unique, enfin, plus ou moins. Enfin, ma sœur n'aura pas les enfants que mes parents auraient voulu qu'elle ait, etc.
C'est ça.
Et donc, ça joue. Il y avait un peu sur moi aussi une sorte de
Ouais,
pression,
une
je pense, de,
mission.
une sorte de mission de la belle famille, des petits-enfants. Et en fait, même si à un moment j'avais envie de leur dire, écoutez, je suis queer et puis je fais ça, enfin je m'en fous, et enfin je suis complètement, je me suis dit bon, j'ai l'impression que ça a déjà été dur pour eux de passer par ma fille est homosexuelle, alors je me dis je vais peut-être pas leur remettre des couches, on leur explique, enfin ça c'est ma vision. Après je dis pas du tout que c'est la bonne, je suis vraiment dans un grand questionnement là-dessus. Il y a aussi bien des gens qui me disent c'est super important de passer par le coming out sans aucun sans part d'ombre auprès des parents, parce que moi je le ressens pas, j'ai l'impression que mes parents ont l'intuition que j'ai connaissent le Larsen, ils connaissent mes sujets de prédilection, donc ils savent certainement très bien que je suis dans une zone floue, que eux ne connaissent pas en tout cas. Après, j'ai jamais prôné le fait de obligatoirement passer par le coming out
C'est ça.
parental.
Ouais.
Mais je dis pas que ça se trouve, je le ferai cette année et ça me ferait un bien fou, même si je le ressens pas comme une douleur, comme un. Non, je le ressens pas du tout comme un poids aujourd'hui. Parce que je me dis qu'ils me pensent homosexuel et que déjà, le temps qu'ils se fassent à cette idée. Mais il y a beaucoup de travail parce que la dernière fois, je leur parlais de mes enfants à venir
Ouais.
et ils ont presque lâché leur fourchette au restaurant, genre, mais tu vas avoir des enfants? Donc il y a du travail, il y a beaucoup de travail, c'est. Voilà. Ça leur paraît pas possible, en tout cas, que leur fille, si elle est homosexuelle, puisse avoir des enfants. Donc,
C'est ça.
alors en plus, leur expliquer ce que c'est que, un, les amours pluriels, deux, toutes les théories queer qui veulent se défaire de toute la notion de genre masculin, féminin. Moi, je les laisse un peu tranquilles. Mais voilà.
Et alors, pour prendre un peu plus de recul comme ça, bon, l'après-guerre, c'était aussi les années 60, 70, avec le rapport au féminisme, oser le cri plus féminin hein, qui revendique justement un tas de choses, des droits, une façon de vivre. Est-ce que tu penses aussi que ce qu'on vit aujourd'hui au niveau du mouvement queer ou polyamoureux, par exemple, est un petit peu une suite logique avec chaque fois 10-20 ans pour un peu digérer, aller plus loin? L'homme se repositionne aussi aujourd'hui au sein des familles, doucement, même si rien n'est acquis. Et on est aussi d'accord qu'il y a un certain retour en arrière, peut-être. Donc rien n'est jamais gagné. Mais est-ce que tu penses que ce qu'on vit maintenant, dans le fond, n'aurait pas pu se faire plus tôt, quoi? Il fallait comme une maturation.
Oui, effectivement, il y a des. Certains jours, en tout cas, c'est ce que je pense. D'autres, je suis juste trop triste de voir l'état de certains pays. Quand on voit en Russie récemment les lois qui allaient passer, l'interdiction de déclarer son homosexualité. Enfin, bon, il y en
Ah
a
oui, en
partout.
Russie,
Ouais.
ouais.
Quand on voit en Israël ce qui est en train de se passer avec les femmes qui sont. Enfin, en tout cas, à Tel Aviv, à Jérusalem, les femmes sont interdites sur les publicités, on les fait monter à l'arrière du bus. Bon, voilà, il y a des jours où je suis plus dans l'aspect un peu de ce constat un peu noir, triste et régressif. Puis d'autres fois où ça me paraît clairement évident que ça va avec l'époque, de toute façon. Donc c'est. Puis on a peut-être aussi tout un héritage de personnes qui ont travaillé avant. On voit pour le féminisme, tout ce qui s'est fait post-Beauvoir. Enfin, moi, pour toutes les questions de genre et de sexualité, tout le travail de Foucault, de Deleuze, qui ont amené comme ça tellement de matière disponible à portée de main, plus maintenant avec Internet, pour réfléchir tout ça. Et aujourd'hui, il y a des gens, voilà, comme Preciado, donc je pense que ça va aussi avec son époque, parce qu'il y a eu vraiment des acteurs clés aussi, et des actions clés, je veux dire, entre Act Up, entre, enfin, qui créent des possibles pour ces espaces-là. Et même si on a vu dans plusieurs cultures, parfois des espaces ou des époques d'exception, je pense que ça va quand même très bien avec notre temps, sur où en est le féminisme aujourd'hui, pourquoi est-ce que, à la fois, certains jours, on s'accable, enfin, vraiment, on s'étonne de voir à quel point le monde va mal d'un point de vue féministe, et en même temps, de l'autre, on a quand même, je le ressens, une sorte de revival au niveau des groupes et des actions féministes qui sont menées, ou de la sensibilisation autour de ça. Mais bon, c'est toujours avec un double penchant, en fait. Mais chaque problématique génère souvent un double penchant. Bon, avec le féminisme, on a beaucoup de problèmes sur la définition des termes et l'historique aussi, de comment est-ce que c'est perçu. J'en parlais encore récemment, une personne qui me disait « Féministe, c'est vraiment une tare, quoi. » Enfin, je veux dire, et puis alors, c'est reparti sur des débats de base, défaire le mot féminisme de tout ce qui, ce qui peut... Mais pour revenir vraiment à ta question, oui, je crois que ça fait époque. Je crois vraiment que ça fait époque. Et qu'il y a aussi l'art là-dedans. Je sais que j'aspire et j'ai l'ambition de travailler dans le cinéma, et de travailler dans le cinéma aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un art qui est visible. Donc c'est pour moi un art qui peut permettre le changement des mœurs, sans parler de propagande ou voilà, de manipulation des foules. Mais c'est un moment... comment est-ce qu'on peut véhiculer des profils différents, des personnages un peu différents, des situations moins conventionnelles, pour que un peu les esprits et les mœurs intègrent et réfléchissent ça, et que ça change le monde, dans l'idéal. Je pense à beaucoup de films, hein, qui essaient comme ça de... Je pense à Boys Don't Cry, par exemple, je pense à Velvet Goldmine, je pense à Edwige, enfin... Voilà. Après, chacun, voilà, y a l'action politique directe, il y a l'action artistique, qui est pour moi aussi une action politique directe. Et on a quand même aujourd'hui beaucoup d'art qui vient s'exprimer sur tout ça. Et je crois que plus on diffuse, plus ça va permettre peut-être d'aspirer à quelque chose de plus fluide. Et l'idée du Larsen, c'est ça, c'est créer des scènes et des écrans pour permettre ça. Sans enfermer qui que ce soit, mais pour vraiment dans la proposition. Ouais.
Et donc, dans 10 ans, on a un Larsen avec un espace VIP sponsorisé par Red Bull, avec des tickets en pré-vente sur Internet.
Dis-moi, c'est ce que tu voudrais, Phil? Non, je crois pas.
C'est une petite question en clin d'œil.
Non, ça me dérange pas mal... le carré VIP. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment continuer à avoir des artistes et des auteurs qui sont présents, qui se mélangent avec la foule, qui créent la rencontre, de ne pas se scinder comme ça. On est tous participants au Larsen. Ça ne se ferait pas sans le public, sans l'artiste qui vient donner de son temps, de son œuvre. C'est vraiment bon. Et puis après, bah... on espère, là, en développant la structure légale, qu'on pourra éventuellement accéder à certaines subventions qui permettraient de pouvoir être plus confortable, même pour les artistes, de les faire venir peut-être d'un peu plus loin aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui se font partout en Europe et même outre-Atlantique. Et voilà, et puis pourquoi pas une boîte de production de films l'arsenic. Non, j'espère que, en tout cas, et tu viendras me le dire si tu sens vraiment qu'on dépasse la frontière, j'espère que le Larsen restera comme ça, quelque chose d'accessible et de humble.
Oui, c'est comme si chacun qui participe pourrait un peu s'approprier un petit morceau. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti.
Ah oui, hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire l'appel à projet, parce que le Larsen, il se renouvelle et on passe toujours un certain temps à essayer de rassembler des œuvres et puis à essayer de trouver un fil rouge. Parce que parfois, on découvre un groupe, puis on se dit « Oui, mais ça n'ira pas avec le film, c'est trop... » On essaye comme ça d'avoir une sorte de sujet un peu latent, de choses qui vient relier les œuvres entre elles pour qu'elles dialoguent. Mais donc, voilà, j'en profite pour l'appel à projet. Tout ce qui peut nécessiter un écran ou une scène et qu'il faut créer, comme ça, ils sont les bienvenus. S'ils pensent qu'ils réfléchissent un peu des questions de normes, de structures, de près ou de loin, moi, j'en ai beaucoup parlé, on connaît mes sujets, mais je veux dire, il y a d'autres choses qui sont arséniques. Et donc, on aime aussi se faire surprendre, vraiment, par ce qu'on pourrait nous proposer. Voilà. Donc, même au niveau des formes, enfin, marionnettes, sculptures, live painting, des contes, du chant, enfin, on est vraiment très ouvert là-dessus, quoi, Donc, qui que ce soit, quelque chose à proposer, c'est vraiment ça, c'est un moment des rencontres. qui disent, bon, ben voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de limite, en fait, il y a de l'espace, qu'est-ce qu'on en fait? Donc venez, nombreux, là, on cherche à monter une session de court-métrage pour la prochaine, et dans l'idéal, avec les auteurs présents, comme pour les autres éditions, même si Marie Lozier n'avait pas pu venir pour The Ballad of Genesis, mais elle avait tellement, à l'écrit, soutenu notre projet, que j'avais trouvé ça déjà très fort. Hein.
Et comment t'es venu le mot Larsen, puisqu'on sait au niveau acoustique que c'est une boucle de son, hein, donc un son diffusé dans un haut-parleur qui repasse dans un micro, avec une sorte de mise en abîme en fin de compte, qui crée une saturation électrique et acoustique. Et est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui t'a nourri, c'est l'idée du court-circuit ou quoi ou...
Oui, ça m'a clairement nourri. Après, je vais pas te mentir, mais le Larsen, c'était mon pseudonyme quand j'avais 15 ans.
Ah ouais.
Voilà. Bon, après, vu que c'était un projet collectif, ça me dérangeait de prendre ce nom-là parce qu'il était très fort connoté pour moi, vu que c'était mon pseudonyme. Puis c'est ce que je faisais des graffitis un peu à l'époque, donc c'était mon blaze, comme on dit. Mais parce que je me sentais très Larsen, en fait. Je me sentais comme ça, dans ce court-circuit, dans cette boucle. Puis à un moment, je me suis dit, ça, je veux dire, j'avais 14-15 ans, je crois que je découvrais Jimi Hendrix. Je me suis dit, mais waouh, ce qu'il fait avec du Larsen, c'est génial. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Je me sens un peu. Puis quand chaque fois que j'étais en concert, hein, Larsen, ça venait un peu me déranger. Puis on pouvait en faire quelque chose de beau. Puis... Donc, c'était mon pseudonyme. Puis on a très longuement discuté sur des noms de collectifs. Puis on est tombé d'accord pour dire que en fait, Larsen collait très bien au projet. On l'a mis au pluriel parce que c'est une notion très importante dans Larsen, le pluriel. Et puis c'est resté. Voilà.
Et puis Larsen, c'est un peu ce qu'on n'attend pas en fait. Hein. Sur scène, on a tout prévu. Et puis toc, tout d'un coup, il y a du Larsen, ouais. Merde, c'est le truc qu'on n'a pas prévu. Mais dans le fond, qui est peut-être créateur de quelque chose, c'est ça?
Oui, ça j'y pense souvent en concert, quand le Larsen arrive, j'ai toujours mon petit sourire, genre « Oh, un Larsen qui se balade !» Et voilà, ce truc un peu qui surgit, puis qui... Ça, comme ça, ça, je sais pas, ça surprend, ça d'un coup, il y a une sorte de... Ouais, une surprise, un imprévu qui me plaît beaucoup.
Il y en a un dans le morceau live de Bob Marley, no Woman, No Cry, je pense. Ah ouais. Un Larsen à un moment précis, et quand j'entends une autre version, ça me manque. Je me dis, où est le Larsen qui était dans... Parce que moi, j'avais découvert ce morceau avec ce petit moment de Larsen. L'ingénieur du son a dû se faire taper sur les doigts, mais c'est comme si, ouais, il fait partie, quoi, pour moi, maintenant, de l'héritage du morceau, quoi.
Ouais. Après, bon, bah, ça peut être une manière d'excuser nos problèmes techniques aussi au Larsen, parce que des Larsen, il y en a eu beaucoup. Mais bon, non, c'est vraiment une sorte d'intuition aussi, l'arsenic. Vraiment une sorte de... Je trouve que c'est un mot qui offre aussi beaucoup de directions, qui enferme rien. Je voulais vraiment pas estampiller, je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez ouvert. Je trouve que les Larsen pluriels, ça englobait tout ça, en fait.
Et amour l'arsenic, on pourrait tenter ça ou quoi? Ce serait quoi?
Amour l'arsenic. Ouais. Je pourrais pas répondre assez vite là, mais non, je pense que c'est l'amour l'arsenic. Je pense qu'on doit pouvoir trouver dans nos historiques amoureux des amours l'arsenic, hein, comme ça, qui surprennent, qui surgissent, qui n'avaient pas à la base peut-être des éléments pour paraître évidemment compatibles, puis en fait qui créent une nouvelle alchimie qui est un peu l'arsenic comme ça. Bon, j'aime bien parce qu'il y a arsenic dans l'arsenic.
Et... Ah. Arsenic, ah, l'arsenic, hein.
L'arsenic, voilà. Mais donc c'est l'adjectif qu'on a choisi. Mais... voilà, c'est un peu des mélanges comme ça.
Mais je voudrais te remercier, Hélène, pour ce beau moment de rencontre. Un dernier petit mot.
Dernier petit mot, bah, vivement le prochain Café Poli, le 8 février, c'est ça?
Le 1er février, mais donc c'est, février, voilà, mais ici l'émission sera diffusée un peu après, sur Radio Campus, comme à chaque fois, mais donc c'est pour les 20 ans à venir, le premier mercredi du mois, à la Maison Arc-en-Ciel, et j'en profite pour parler du 24 mars où il y aura une Assemblée Générale. On sera sans doute complètement intégré à Maison Arc-en-Ciel, normalement. Ouais. Donc voilà, c'est aussi une reconnaissance pour nous, et on va pouvoir... accrocher notre petit wagon, sans doute, au mouvement LGBTI, intersexe. Chaque fois, une lettre qui se rajoute, et donc peut-être il y aura un P
un
quelque
jour,
part.
Il y aura tout l'alphabet, peut-être.
Un P pour polyamour et le L pour toi. Hein?
Pour le Larsen.
Si ça devient un concept et ça devient une identité.
Oui, mais à nouveau, ce serait l'isoler dans tout ça, alors que ça englobe. Jusqu'à maintenant, moi, c'est la scène LGTB, IP, la bienvenue dans le Larsen.
Je ne sais pas si on va arriver à se quitter, parce que j'ai quand même envie d'en une toute dernière question sur le Larsen 3.
Excuse-moi.
Est-ce que tu peux nous faire un petit scoop? Parce que j'imagine quand même que ça a déjà tourné dans ta tête, puisque Larsen 2 est fini depuis 2 mois. Est-ce qu'il y a une idée un petit peu nouvelle, une sorte de concept un petit peu? Est-ce que déjà on pourrait avoir un scoop sur, dans l'émission Radio Polyplaisir des Utopies sur la troisième version, qui est un petit indice, allez, on va dire ça comme ça.
Alors déjà, je me permets, en fait, parce qu'on n'aime pas faire les choses normalement, j'ai envie de dire. Donc, on a appelé notre première soirée la zéro et la seconde soirée la première. Donc, ce sera donc une Larsen 2 pour ton petit scoop. Voilà, on est en train de rechercher des lieux un peu... On a quelques idées, mais pour le moment, ça sert vraiment pas... J'en parle là parce qu'il n'y a rien du tout de fait. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des contes.
Ah ouais.
Alors ça, c'est peut-être un petit... Voilà.
Un bel héritage de l'oralité.
Oui. Parce que le conte, c'est pareil, c'est des scènes où il y a peu. Mm-hmm. Donc, voilà, tous les vieux petits canards de la scène sont les bienvenus. Voilà.
Ah ben, donc tu m'invites déjà, c'est ça?
Bah écoute, non, mais parlons-en. Et franchement, tu viens, tu bois le thé comme maintenant et on en parle. Hein.
Dans Larsen 2, c'est ça?
Larsen 2 ou 3, ou... j'espère qu'il y en aura une longue série.
Eh bien, je te remercie, vraiment du fond du cœur.
Merci beaucoup aussi, Phil. Il fait nuit.
Les musiques qui illustrent cette émission sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site de musique libre jamendo.com. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à 2 pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le 2e mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le 4e jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des Utopies. Mm-hmm.